Voilà, je savais bien qu'il y en a une qui relèverait. Bien, donc les psaumes 130 à 134 inclus. Il y en a deux qui sont un petit peu longs et les trois autres d'une taille assez modeste, donc je pense qu'on va y arriver. Je propose qu'on les prenne les uns après les autres, même si en fait ils ont une cohérence parce que c'est la fin de ce qu'on appelle les psaumes démontés. Là, c'est traduit cantique des degrés. Degré, ça veut dire marche. Ça veut dire les psaumes qui étaient utilisés dans les pèlerinages vers le temple de Jérusalem. Il y a différents pèlerinages, différentes fêtes. Et les psaumes relatifs à cela sont rassemblés dans cette partie. Et donc, on a les derniers. Et ça permet d'avoir, je trouve, un bel échantillon de ce que propose ce genre de psaumes, qui sont a priori les psaumes aussi qui étaient chantés, notamment à la fête de Pâques. Et donc on peut supposer que c'est ce que Jésus chante pour sa dernière soirée. Alors pas forcément ceux-là, mais ceux qui précèdent. Voilà. Et puis vous verrez que ça fait une bonne transition pour notre dernière séquence de manière ultime aussi. Bien, ça c'est une autre question. On commence par le psaume 130. Quelqu'un nous lit le psaume 130 qu'on appelle le De Profundis parce qu'en latin ça commence par De Profondeur. Quelqu'un pour lire le 130? Sinon je le fais, hein, pour j'en suis.
Du fond de l'abîme, je t'invoque, ô éternel. Seigneur, écoute ma voix, que tes oreilles soient attentives à la voix de mes supplications. Si tu gardais le souvenir de mes iniquités, éternel Seigneur, qui pourrait subsister? Et le pardon se trouve auprès de toi, afin qu'on te craigne. J'espère en l'Éternel, mon âme espère, et j'attends ta promesse. Mon âme compte sur le Seigneur, plus que les gardes ne comptent sur le matin. Israël, mets ton espoir en l'Éternel, car la miséricorde est auprès de l'Éternel et la rédemption est auprès de lui en abondance. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses iniquités.
Merci. Donc, ça c'est Louis II. Oui. On va avoir des traductions qui sont assez proches du texte hébreu, donc c'est pas de l'hébreu trop compliqué par rapport aux autres psaumes. Donc c'est pour ça qu'on va pas forcément rentrer dans l'hébreu, sauf pour un ou deux cas qui sont un peu litigieux. Alors c'est un psaume qu'on connaît parce qu'il est souvent utilisé pour les obsèques, et c'est un usage abusif déjà dénoncé par Jean Calvin, qui reproche que les papistes, puisque c'est ainsi qu'il les appelle dans son commentaire des psaumes, utilisent justement ces mots pour parler des défunts, déjà comme si les défunts pouvaient dire quoi que ce soit, et comme si ce texte n'avait pas à nous dire quelque chose à nous les vivants. Alors, il y a un deuxième usage qui est un petit peu... une perversion de ce texte, c'est la confession du péché. C'est-à-dire qu'on peut avoir le sentiment que c'est un psaume de repentance. Et en fait, à l'instar des autres psaumes de sa catégorie, c'est un psaume de confession de foi. Évidemment, toute prière, de toute façon, est une confession de foi en creux. C'est ce que je vous expliquais déjà. Quand le psalmiste crie contre Dieu, eh bien, en fait, ça exprime sa foi et sa confiance en Dieu. C'est qu'il pressent bien que Dieu pourrait agir, ou c'est qu'il pressent que le monde pourrait être autrement. Et donc, toute colère exprime quand même un attachement, un lien. Et ici, on va découvrir que le psalmiste est celui qui révèle un Dieu qui est promoteur du pardon. La question est de savoir si ce psaume est un psaume individuel ou un psaume collectif, communautaire. Et à la fois, il y a le pronom personnel « tu », donc c'est bien un individu qui parle à Dieu, donc c'est un caractère individuel. Et en même temps, au verset 7, on voit que c'est Israël, dans son ensemble, qui doit mettre son espoir en l'Éternel, et donc il y a aussi cette dimension collective. Et je crois qu'on a là, en fait, ce qui caractérise un psaume de pèlerinage, ou ce qui caractérise le pèlerinage, c'est à la fois une démarche individuelle, chacun est renvoyé à soi-même, il y a vraiment un chemin personnel, et en même temps, on va découvrir, et notamment avec le psaume 133, les frères et sœurs qui sont dans ce même cheminement, et donc on est intégré dans une communauté qui nous dépasse largement, et c'est le sens de ces psaumes qui favorisent l'individualisation du croire et qui inscrivent cette démarche dans une démarche collective. Dernière petite chose que je vous dis en introduction de ces psaumes, et des psaumes en général d'ailleurs. Il y a une très grande liberté de parole dans les psaumes, il y a une très grande liberté de ton. On avait vu quelques psaumes qui étaient même assez affligeants par le caractère trop honnête finalement de ce psalmiste qui crie sa haine ou qui dit son désir d'éclater la tête des enfants, des ennemis, etc. Eh bien, c'est parce qu'il y a un cadre de libre parole, donc un cadre de confiance, que on peut exprimer les difficultés que nous rencontrons, et du coup, on peut en être libéré. Pour le dire autrement, les psaumes montrent qu'il y a une sorte de cadre thérapeutique qui existe. Et le cadre thérapeutique, c'est sur la question de la liberté de parole que ça se joue, en fait. Et la foi peut être finalement un cadre thérapeutique où on se sent suffisamment en confiance pour pouvoir dire les choses telles qu'on les sent. Et c'est certainement aussi la raison pour laquelle il est utile de lutter contre tous les intégrismes, etc. C'est qu'un intégrisme empêche cette liberté de parole. Et donc, au lieu d'être un cadre thérapeutique, c'est un cadre pathogène. Et la véritable religion, la religion qui libère la parole, la fausse religion est la religion qui empêche la parole ou qui impose la parole. Moyennant quoi, je vous confisque la parole un petit peu là, ces temps-ci. Mais bon, c'est pas grave. Bien, allez, on y va. Du fond de l'abîme, je t'invoque ou je t'appelle, je te crie, c'est le verbe kara, convoquer, appeler, donc éternel. On peut comprendre cela de deux manières différentes, hein, les profondeurs. Les profondeurs, c'est soit qu'on est au fond du gouffre, c'est-à-dire qu'on est vraiment très accablé, on est comme anéanti, vous voyez, comme si le sol s'était échappé sous nos pas, comme si on avait le sentiment que le sol se dérobe. Donc on peut avoir ce sentiment d'être plus bas que terre. Ou alors, et c'est à mon avis le sens du psaume de pèlerinage, c'est qu'on va chercher au fond de soi. C'est-à-dire des profondeurs de mon être, de ma plus grande intimité. C'est-à-dire que je me livre en toute honnêteté. Je ne retiens rien. Il n'y a pas une zone de mon existence qui échapperait à mon propos, à ma prière. Hein, quand, justement, dans la prière de repentance, on peut dire le dimanche matin que nous nous plaçons entièrement devant Dieu, c'est une façon de dire que nous ne laissons rien dans l'obscurité. Il n'y a pas une partie de nous-mêmes qui échapperait à l'examen de conscience. Donc, soit le psalmiste exprime un accablement maximal, soit le psalmiste évoque une honnêteté absolue. Et on peut aller plutôt du deuxième côté. J'avais noté l'expression de Calvin. Je vous cite Calvin dans le texte, parce qu'il a une expression assez savoureuse. Ce qui nous doit faire tant plus trouver détestable l'ignorance barbare des papistes, quand ils profanent vilement le psaume, le tirant en un usage du tout autre. Car à quel propos le barbote-t-il pour les trépasser, sinon d'autant que Satan les a ensorcelés ? C'est une façon de dire que les profondeurs, ce n'est pas le shéol, ce ne sont pas les enfers, c'est vraiment la profondeur de la personne du croyant. Car à quel propos le barbote-t-il, donc à quel propos vole-t-il ce psaume pour les trépasser, donc pour ceux qui sont morts, sinon d'autant que Satan les a ensorcelés. Et ça continue comme ça. Alors, Seigneur, écoute ma voix, que tes oreilles soient attentives à la voix de mes supplications. Donc ça, c'est ce que je vous disais sur le cadre thérapeutique, la liberté de parole, le cadre de confiance. Si tu gardais le souvenir des iniquités éternelles, qui pourrait subsister ? Et donc, vous voyez, là, on est quand même plutôt dans le registre de la confession de foi que de la confession du péché, car on reconnaît à Dieu des qualités qui sont propres à la confession de foi. Est-ce qu'il manque quelque chose ? C'est bon ? Tout va bien. Et la caractéristique, c'est que Dieu ne garde pas le souvenir de nos fautes. Qu'est-ce qu'il y a d'important ici ? C'est que si Dieu ne garde pas les fautes, c'est qu'en fait, la foi n'est pas de l'ordre du musée, au sens où on conserverait intactes les choses. Dieu n'est pas du côté de la perpétuité aussi de la faute. Il y a un autre passage dans Ésaïe où il dit « Je ne me souviendrai plus de ta faute », non pas au sens où je l'oublierai, mais au sens où je ne la célébrerai pas. Et ça, c'est peut-être ce qui fait la caractéristique de la foi judéo-chrétienne. C'est que Dieu n'est pas du côté de la mémoire des iniquités. Par opposition, par exemple, à ce qui se passait dans la religion en Égypte, où au terme de la vie, il y avait le jeu de balance. Hein, et on voyait si l'âme était plus ou moins lourde qu'une plume. Sous-entendu, Dieu gardait la mémoire de toutes nos actions et les mettait en balance ensuite. Eh bien, le Dieu biblique n'est pas de cet ordre-là. Et on pourrait même dire que Dieu n'est pas du côté de la mémoire en général. Garde-t-il plus nos bonnes actions que nos iniquités ? Ce n'est pas évident. En tous les cas, ici, il n'apparaît pas comme une sorte de comptable. Et ça signifie que le péché ou la faute est géré au fur et à mesure. Et qu'une fois que le dossier est traité, eh bien, on passe à autre chose. Ça se distingue aussi de l'islam qui viendra plus tard. Mais quand on interroge les musulmans sur le rapport qu'ils entretiennent au pardon, ils disent que le pardon n'appartient qu'à Dieu et après la mort. C'est la raison pour laquelle un texte comme le pardon concernant la femme adultère est hors de propos pour eux. Parce que l'homme n'est pas là pour pardonner, ni même pour répercuter un pardon qui serait donné de la part de Dieu. Et de toute façon, ça ne se joue pas dans l'histoire des personnes, ça se joue à la fin. Et là, c'est une caractéristique du Dieu biblique, c'est de ne pas reporter à plus tard. Alors vous allez me dire, et cette histoire du jugement dernier, allez-y, dites-moi, et le jugement dernier ?
Parce que quand on voit l'image de l'archange avec la balance... L'iconographie classique.
Catholique. L'iconographie classique. Ceux qui sont ensorcelés par Satan. Voilà. Le jugement dernier, on peut le comprendre non pas comme celui qui vient après la mort, mais dernier comme ultime. C'est-à-dire le jugement après lequel il n'y a plus rien à dire. Et ce jugement ultime peut être dit en amont de notre vie. Et peut-être que le jugement ultime est dit dès le baptême, par exemple. Le baptême dit qu'il est juste et bon que cette personne soit là, qu'elle est enfant de Dieu. Et donc, le jugement est ultime, c'est un jugement dernier, au sens où il n'y a pas une parole que l'on pourrait rajouter. C'est l'alpha et l'oméga. Ce n'est pas en termes de chronologie, c'est en termes de... C'est en termes de quoi ? Ouais, mais... En termes d'autorité, peut-être. Oui, c'est-à-dire qu'on est au summum de ce qui est discible sur une personne. C'est un peu comme les livres d'Ézéchiel ou de l'Apocalypse. Il n'y a plus de place pour rajouter quoi que ce soit. Ils sont écrits recto verso parce que tout est dit. Et tout ce qu'on rajouterait à ce « oui » viendrait de celui qui ensorcelle. Donc, si tu gardais le souvenir des iniquités éternelles, Seigneur, qui pourrait subsister? On a ça dans les écrits intertestamentaires. On a dans le testament d'Abraham une reprise de la justice de Dieu. Il y a Abraham qui dit quand même, Dieu, tu pourrais intervenir un peu plus, parce qu'il y a trop d'injustices sur ce monde. Et du coup, il y a Abraham qui survole la terre et qui règle son compte à chaque personne qui commet le mal. Puis à un moment donné, il y a Dieu qui l'arrête, qui dit non, non, on va s'arrêter parce que sinon tout le monde va être flingué avec toi. Et c'est là qu'on comprend que la gestion du mal ne peut pas, en tous les cas, n'est pas envisagée dans les textes bibliques sous la logique de la rétribution, de la vengeance ou du un prêté pour un rendu, parce que ce serait la logique du déluge. Et donc, ça conduirait à l'extermination de tous, parce que nous avons tous quelque chose à nous reprocher. Et Jésus va le reprendre d'une manière pédagogique, avec une fois de plus l'épisode de la femme adultère, que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre, et les plus sages, les anciens, sont les premiers à partir, parce qu'ils ont compris que tout le monde est coupable de quelque chose. Et que c'est la logique du pardon qui est capable de casser le cercle vicieux du punissons les fautes. Et donc, au verset 4, on a justement le thème du pardon qui intervient. Avec une traduction qui est peut-être à reprendre. Vous voyez, là on a « Le pardon se trouve auprès de toi afin qu'on te craigne ». On a l'impression que Dieu est bienveillant dans le but que nous ayons peur et que nous nous tenions bien sagement. Alors, comme il est des hébraïsants, je voudrais juste vérifier avec vous que le ma'an, c'est bien plutôt « c'est pourquoi ».
Ouais.
Ouais. Et du coup, on pourrait traduire, c'est l'avant-dernier mot du verset 4 en hébreu, on pourrait traduire « Mais le pardon se trouve auprès de toi », ce qui explique qu'on te craigne, et encore le verbe « yara », ça peut être plutôt « respecter ». C'est-à-dire que craindre, c'est le verbe qui donne après l'expression « les craignant Dieu », c'est-à-dire les croyants. Hein, les craignant Dieu, c'est une expression connue, même dans le Nouveau Testament, pour parler de ceux qui sont croyants, qui ont un sentiment religieux. Oui, c'est ça. Et donc, ce n'est pas au sens de la terreur, vous voyez, de la peur panique, c'est plutôt la crainte respectueuse. Vous voyez, à la fois, on sent que c'est celui à qui il ne faut pas trop chercher de noise, mais on n'est pas tremblant, on n'est pas seulement tremblant, on est aussi attiré par cette personne. On ne cherche pas à l'éviter à tout prix. Simplement, il y a une forme d'autorité qui nous fait dire « Bon, ben, on va faire attention à nos propos, on va bien se tenir. » Voilà. Respect, quoi. Donc, quand on vous dit que l'Ancien Testament, c'est le Dieu de la justice, le Dieu violent, le Dieu cruel, le Dieu du châtiment, il y a quand même des arguments à opposer à cela. Et ici, on est vraiment dans une théologie qui intègre le pardon comme le moteur de la relation entre Dieu et l'humanité. Donc, ça signifie qu'on n'a pas besoin d'attendre de mettre quelqu'un sur une croix pour régler une dette. Parce qu'en fait, il n'y a pas de dette. La dette est réglée au fur et à mesure dans la gestion du mal. Je ne me souviendrai plus de tes fautes. Donc, il n'y a pas l'histoire qu'il faudrait un sacrifice expiatoire pour régler l'ardoise. Dès le Premier Testament, dès la Bible hébraïque, on est déjà dans cette logique qu'un bouc émissaire ne sera pas un être humain. Il y a dans... Je ne sais pas si quelqu'un a une Bible de Jérusalem. Oui, je vois qu'il y a une Bible de Jérusalem qui traîne. Est-ce que vous pourriez regarder au psaume 130 comment le verset 4 est traduit ? S'il vous plaît. Parce qu'il y a un désaccord entre catholiques et protestants sur ce verset 4.
Ce qui commence par le car près de Yahvé et la grâce.
Oui.
Car près de Yahvé et la grâce, près de lui l'abondance du rachat. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses fautes.
Ah non, alors ça doit être un peu plus haut, le verset 4.
J'espère qu'il y a...
Juste avant. C'est pas forcément les mêmes numéros, c'est pour ça, hein, mais...
Si tu retiens les fautes, Yahvé, c'est l'Éternel qui subsistera.
Et juste après.
Et le pardon auprès de toi pour que demeure ta crainte.
D'accord, ta crainte. Parce que la... Alors, ils ont corrigé d'après le texte masorétique. Parce que les Bibles catholiques ont souvent la loi à la place de la crainte. Parce qu'au lieu de voir Yara, ils ont vu la Torah, en fait. Ils ont vu la loi. Et donc la Septante, puis la Vulgate, ont la loi. Et vous voyez, c'est aussi une façon de réinjecter quelque chose qui est de l'ordre du législatif, de la prescription, dans un texte qui parle de grâce, de pardon. Et ça, ça peut aussi mettre sur de fausses pistes. Ensuite, j'espère en l'Éternel, mon âme espère et j'attends sa promesse. Le verbe espérer est un peu problématique en français parce que il y a un peu un registre de probabilité. On aimerait bien que ça arrive. J'espère que je vais gagner au loto, en quelque sorte. Et en fait, c'est le verbe attendre en hébreu. Et donc, vous voyez, on est vraiment dans autre chose que de la probabilité. Souvent, on rapporte la foi à, justement, une sorte de probabilité, le pari de la foi, croire des choses peu crédibles, un faible taux de véracité, etc. Oui, mais attendre intègre moins le fait que ça pourrait ne pas arriver. Alors que quand on dit j'espère, vous voyez, j'espère qu'il va faire beau. C'est quand même pas sûr. Attendre, c'est une conviction. Alors dans le midi, il paraît qu'il y a... D'accord. C'est quand on est très embarrassé. Très bien. Très bien. Bon. D'accord. Bon. Alors, dans la langue d'Oil, au nord de Valence, il y a un peu plus de probabilité. Et je ne voudrais pas que vous ayez l'idée de probabilité en tête. Donc, gardez la langue d'Oc. Hein, prenez la version montpelliéraine. Elle attend donc, elle attend la promesse. Et c'est là qu'on voit que il s'agirait certainement de l'intériorité. Vous voyez, quand on parle de la profondeur, c'est l'intériorité de l'être plutôt qu'une situation qui nous écrase, parce que c'est mon âme, c'est Nefesh. Et l'âme, on comprend que c'est l'intériorité de l'être, c'est la profondeur de l'être. Donc, c'est pour cela qu'on peut avoir une lecture spirituelle de ce psaume, et pas forcément d'imaginer que la personne est au fond du gouffre. Donc ça peut être aussi un psaume pour les bons moments. C'est vraiment le psaume de pèlerinage où on fait sa retraite, et on va faire ce travail d'introspection. Le psalmiste n'est donc pas nécessairement accablé, vous pouvez le prendre même quand vous êtes souriant ou souriante. Et ce qui est donc attendu, c'est en fait la parole de l'Éternel, c'est la dabar qui est attendue. Pardon ?
Je m'attends à sa parole.
Voilà, dabar. Parce que vous voyez, pareil, sa promesse... Ça donne un petit côté, on verra bien. Hein. Promesse, ça n'engage que ceux qui y croient. Là, on est dans un... La phrase est en fait plus affirmative, elle est plus indicative que ce que la traduction de Louis II pourrait laisser entendre. Donc, à nouveau, mon âme, en fait, vers mon Seigneur. C'est pas qu'elle compte, le verbe compter est pas dedans, en fait. Même si c'était cet esprit-là, en fait. Mais mon âme est tendue vers Adonai, vers mon Seigneur.
Aspire, en fait, ce qu'on traduit dans d'autres...
Aspire.
Dans d'autres, aspire à l'éternel, exact, l'éternel, un peu dans d'autres psaumes.
Ouais.
On la traduit comme ça.
L'intérêt de l'hébreu, c'est que ça laisse l'ambiguïté sur celui qui est à l'origine de l'action. Mmh. Est-ce que c'est mon âme qui aspire à l'éternel ou est-ce que c'est Dieu qui attire mon âme? Mmh. Oui. La théologie du procès, c'est vraiment sur Dieu qui attire le monde. Il y a un travail de séduction. Et ce genre d'ambiguïté de la langue hébraïque autorise ce genre de traduction et d'interprétation. Maintenant, on peut dire aussi que l'âme, c'est lorsque nous nous laissons saisir par ce pouvoir de séduction, lorsque nous acceptons ce que cette parole nous propose, en fait. Donc, on pourrait dire que l'âme, c'est lorsque nous avons confiance, nous avons foi dans cette parole. C'est le fait que, évidemment, on l'attend, quoi, on veut en faire quelque chose. Et pour montrer que la foi, c'est quand même quelque chose qui est de l'ordre de la ferme assurance, pour reprendre ce que dit l'Épître aux Hébreux, mon âme est donc vers le Seigneur, vers mon Seigneur, plus que les gardes ne comptent sur le matin. Que les gardes ne comptent sur le matin, c'est une répétition qui n'est pas lettre à lettre, mais mot à mot. On sait que l'aurore se lève encore. Il y a même une chanson de Barbara là-dessus. Voilà, et c'est peut-être aussi le sens de Pâques d'ailleurs. C'est que le jour se lève encore, en dépit des aurores et en dépit de l'obscurité qui gagne. Après tout, Vendredi Saint, c'est les ténèbres qui arrivent. Eh bien, en dépit de ces ténèbres, le jour se lève encore. Et donc ça reprend le début du chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux. Je vous fais de la citation. « La foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Démonstration au sens d'exposition. C'est pas la preuve par neuf. Donc, la foi, c'est l'aurore va arriver encore. Donc, vous voyez, on n'est vraiment pas dans l'histoire d'un Dieu qui condamne. On est dans l'histoire d'un Dieu qui pardonne. Et on est dans l'histoire d'un Dieu qui rend les choses possibles. On est dans l'histoire d'un Dieu qui nous oriente vers quelque chose de satisfaisant. Ce psaume peut être utilisé dans le management, aussi bien en entreprise qu'en famille ou en église, je ne sais pas. Je vous parlais du cadre thérapeutique, la liberté de parole. Quand on peut dire ce qui pèse, on peut dire les fautes, ben du coup, on peut les régler. Si on cache les fautes, en fait, ça aggrave les situations. Exemple que j'avais utilisé dans une prédication sur un service hospitalier. Étude sur les services hospitaliers d'un hôpital pour voir quels sont les services qui fonctionnent bien et quelles sont les bonnes pratiques à répéter ailleurs. Et on regarde du coup ce qu'on appelle les bulletins de dysfonctionnement, les signalements d'erreurs, etc. Et on se rend compte que les services où il y a le moins de bulletins de dysfonctionnement, c'est les services où les chefs de service sont quand même assez puissants chez eux, les mandarins qui sont les gentils tyrans du service. Et que là où il y a une sorte de, bon, je n'ai pas de camaraderie, mais que les relations sont détendues entre chefs de service et les personnels, il y a plus de bulletins de dysfonctionnement. Seulement, quand les examinateurs, enfin les auditeurs sont allés voir un peu plus loin, ils se sont rendus compte que là où il y avait le plus de problèmes, c'est-à-dire le plus de cas qui s'aggravaient, le plus de mortalité, c'était dans les services où il y avait le moins de bulletins de dysfonctionnement. Parce qu'en fait, les personnels cachaient les fautes pour éviter de se faire engueuler par le chef de service. Et du coup, une mauvaise posologie, une mauvaise administration n'était pas dite de façon à ne pas avoir de représailles. Et du coup, on intervenait moins vite sur les situations tragiques. Il y avait plus de cas qui s'aggravaient. Alors que dans les services où on osait dire qu'on s'était trompé, bon, du coup, il y avait des bulletins de dysfonctionnement, mais on pouvait rattraper plus facilement les cas. Et donc, il y avait moins de cas tragiques au bout du compte. Et donc, on peut aussi se dire que cette pédagogie, avec cette théologie du pardon, est propice à ce que la vie se trouve plus épanouie au bout du compte, et qu'il y ait moins de problèmes sérieux qui s'accumulent. Le verset 7, donc, c'est la dimension communautaire de l'attente de l'Éternel qui arrive, car la grâce, la recède, donc là c'est traduit par la miséricorde, c'est la grâce en fait, est auprès de l'Éternel, et la rédemption, le rachat en fait, est auprès de lui en abondance. On a cela qui sera repris par l'apôtre Paul dans l'épître aux Romains, au chapitre 5, verset 20. Là, je vous le fais comme si je connaissais la référence de mémoire, mais je viens de l'avoir écrite sur le texte. Ne t'inquiétez pas, vous étiez ébahis. Hein. Ouais. Là où le péché abonde, la grâce surabonde. Par contre, ça, c'est connu. Bon, c'est Romains 5, verset 20. Eh bien, vous voyez, là, on a une théologie encore plus positive dans le psaume 130. On parle même pas du péché qui abonde, on dit que la grâce abonde et le rachat surabonde. C'est rab. Il y a du rab. Il y a du rab de rachat. C'est pas les soldes. Éventuellement, c'est du déstockage. Mais vous voyez, quand on a cette image vraiment qu'il faudrait évacuer hein, d'un Dieu de l'Ancien Testament épouvantable, là on a vraiment tout l'inverse. On a même un Dieu plus sympathique que le Dieu de Jésus-Christ, qui est des fois un peu perfouettard quand même. Bon, dans d'autres passages du Premier Testament, il y a quand même un Dieu un peu viril, quoi. Mais Machi, je ne sais pas, mais... bon.
Là, dans la traduction seconde,
oui.
C'est auprès de lui que se trouve une généreuse libération.
Oui. Oui, c'est quand même assez libéral. Oui. Bon, la libération, c'est au sens du rachat, au titre... Non, mais pour vous expliquer pourquoi il a utilisé libération, c'est que le peuple racheté, c'est le peuple qui est libéré d'Égypte, en fait. Par ailleurs, on dira que Dieu a racheté son peuple d'Égypte au sens où il l'a libéré. Et donc, le rachat, c'est la libération. On rachète les premiers-nés aussi, au sens où on les libère de toute forme de dette à l'endroit de la vie. Et donc, c'est lui qui rachètera Israël de toutes ses iniquités. Que dire de ce psaume ? Il y a deux choses. L'attente dit un creux, en fait. L'attente, c'est de prendre conscience qu'on n'a pas la totalité. Donc, il y a un besoin. Et on reconnaît qu'il y a ce besoin-là. Et l'attente, finalement, a un rapport avec l'humilité. On n'est pas plein de foi, on n'est pas plein de grâce. On est des mendiants. On est des mendiants. Et les rencontres de Jésus vont célébrer les mendiants. On le reverra avec l'histoire du pharisien un peu orgueilleux qui se réjouit auprès de Dieu de ne pas être comme ce péager, là, type un peu minable, sans face, quoi. L'humilité, c'est la kénose, c'est le fait d'être un peu vide, et du coup, il y a un appel d'air possible. Voilà, donc, le premier point, je dirais, c'est de prendre acte qu'il y a dans le pèlerinage ce cheminement qui nous fait découvrir que nous avons besoin de l'altérité. Que ce soit le prochain, on le verra avec le psaume 133, ou que ce soit l'altérité radicale, l'éternel. Et puis la deuxième chose, c'est que à cette attente répond un rachat. Le rachat se fait par la parole, finalement. C'est l'attente de la parole qui est dite au verset 5. Et du coup, on pourrait se dire que notre responsabilité de croyance est de ne pas retenir les paroles, mais de pouvoir les offrir. Vous voyez, la prédication, c'est ça, finalement. C'est de pouvoir offrir à celui qui est en attente les paroles dont il a besoin. C'est l'annonce, finalement, que ce qui nous retenait captifs ne peut pas nous maintenir indéfiniment prisonniers. C'est ça l'annonce de la grâce. C'est qu'en fait, nous vivons dans des prisons que nous nous construisons. Souvent, il y a cet aspect-là, disons. Et tout un travail de la spiritualité dès le Premier Testament, c'est de nous faire prendre conscience qu'il y a des captivités abusives dont nous pouvons nous libérer, en fait. Juste pour en finir avec les papistes ensorcelés, vous voyez, ce psaume 130, déjà à l'époque, avec cette histoire du pardon, de la grâce, de la surabondance du rachat, disait à quel point il est complètement fou d'envisager qu'il puisse y avoir un purgatoire quelque part. L'enfer, vous voyez, mais le purgatoire, ce psaume, le neutralise complètement. Il n'y a pas un lieu pour souffrir en attendant son procès, son solde de tout compte, en fait. Bien. 131 ? Ou il y a encore des choses à voir avec le 130 ? Bon, qui nous lit le 131 ? Un petit 131 ? Oui, Jean-Claude. Oui, ou psaume démonté, oui, tout va bien.
Éternel, je n'ai ni un cœur qui semble, ni des regards tout craint. Tu ne m'occupe pas de choses trop grandes et trop relevées pour moi. Loin de là, j'ai l'âme calme et tranquille, comme un enfant sevré qui est auprès de sa mère. J'ai l'âme comme un enfant sevré. Israël, mets ton espoir en l'Éternel, dès maintenant et à jamais.
Donc vous voyez, rien que cette dernière phrase, le verset 3, montre qu'il y a vraiment un contact littéraire avec le psaume qui précède, hein, puisqu'on avait ça au verset 7, « Israël, mets ton espoir en l'Éternel », pour reprendre la traduction de Louis II. Donc c'est compris comme une continuité. Alors, il y a dans ce psaume à nouveau une sorte d'entrelacs entre le « je » et le « nous ». Donc il y a à la fois la dimension individuelle et la dimension communautaire. Alors, je n'ai ni un cœur qui s'enfle, ni des regards hautains, je ne m'occupe pas de choses trop grandes et trop relevées pour moi. La question est de savoir si c'est un état d'âme ou un état d'esprit. C'est-à-dire, est-ce que c'est passager ou est-ce que c'est une attitude de fond? La question est de savoir si c'est un psaume circonstanciel ou si c'est un psaume plutôt structurel. Là encore, une sorte de pédagogie de la foi au long cours. Ça vous de voir, de toute façon. Mais on pourrait dire qu'il y a un nouvel exemple du pèlerinage comme d'un chemin de l'homme ou un chemin d'humanité, c'est-à-dire le pèlerinage conçu comme ce qui nous éduque et ce qui fait de nous un être avec une éthique personnelle. Et l'éthique, en l'occurrence, elle se dit dans « Je n'ai ni un cœur qui s'enfle, ni des regards hautains, et je ne m'occupe pas de choses trop grandes et trop relevées pour moi. » On peut se demander ce que ça signifie de ne pas avoir un cœur qui s'enfle ou de ne pas élever son cœur. Ouais. Oui, mais c'est peut-être aussi de se dire que l'homme n'est décidément pas la mesure de l'homme. C'est-à-dire que On peut voir dans ce psaume l'attitude de celui qui outrepasse sa position, qui outrepasse ses responsabilités et qui, comme Adam et Ève, vont vouloir faire ce qu'ils ne sont pas, enfin faire d'eux ce qu'ils ne sont pas, à savoir se faire comme des dieux. C'était ça l'argument du serpent, c'est-à-dire vous serez comme des dieux. Et ce psaume a tendance, quelques siècles avant les transcendantalistes américains, à dire « si tu n'es pas toi, qui le sera ?» C'est une citation libre de Thoreau. Il le disait à la mode américaine, « si je ne suis pas moi, qui le sera ?» C'est le moi. Autrement dit, ce n'est pas un psaume qui cherche à humilier. C'est un psaume qui cherche, au contraire, à restaurer la personnalité. C'est un psaume qui cherche à dire qu'au lieu de vouloir être quelqu'un d'autre, sois toi et ce sera parfait. Avant Jean-Jacques Rousseau, c'est un psaume qui dit « Ne mesure pas ton bonheur en te comparant à autrui » ou « en courant après un bonheur que tu estimes supérieur » parce qu'en fait, ce qu'il y a de plus précieux, c'est ce dont tu es pourvu. Et donc, on pourrait dire qu'ici, la prière est une sorte d'acte de lucidité, c'est-à-dire une prière qui nous permet de prendre acte de ce que nous sommes, de ce que nous sommes appelés à être. Et si ça se fait dans le cadre de la prière, c'est-à-dire en s'adressant à l'Éternel, eh bien c'est parce qu'on a toujours besoin du regard de l'autre pour être vraiment lucide sur soi-même. C'est-à-dire qu'on est jamais le meilleur juge pour soi-même. À la fois parce qu'on a besoin d'un regard bienveillant sur soi, c'est-à-dire qu'on peut s'accabler inutilement. Et puis, c'est que le regard de l'autre permet à la fois de prendre conscience de notre richesse et de notre finitude. Parce que précisément, le regard de l'autre montre ma limite. Quel est le problème avec un cœur qui s'enfle, avec des regards hautains et avec le fait de s'occuper de choses trop grandes et trop relevées pour moi? Et bien c'est qu'en fait, il y a une sorte d'ingérence. C'est-à-dire que je vais outrepasser ma position et donc je vais empiéter sur le territoire de l'autre. Et donc cette prière d'humilité, elle vise aussi à rendre à autrui sa liberté. Et donc le regard de l'autre, c'est à la fois ce qui me fonde, c'est ce qui me fait exister, et c'est aussi ce qui me fait découvrir une limite. L'un et l'autre, oui. Et donc, l'autre est à la fois révélateur de ce que je suis et révélateur de ce territoire qui est le mien. Cette liberté, on va le voir avec le verset 2, avec l'enfant sevré. Donc, il ne s'agit pas d'infantiliser le croyant, parce que l'enfant est sevré, donc il acquiert son autonomie. L'enfant sevré, c'est celui qui, justement, n'est plus dépendant. Alors, il y a un jeu de mots qu'on n'a pas là dans le texte, mais il y a un jeu de mots sur l'enfant sevré en hébreu, parce que c'est Mark Anna Wachnin qui met cela à jour. Le fait d'être sevré, c'est le fait de prendre conscience que le sein maternel n'est pas le prolongement direct de ma bouche. Et donc, que, justement, il y a une limite, voilà, qu'il y a une finitude. Et comment la mère parle-t-elle de sa poitrine à son enfant? En français, elle dirait « mon sein » ou « mes seins », et en hébreu, elle dit « Shaddai ». Ce qui est le nom de Dieu, en fait. Donc, Shaddai, l'une des manières de nommer Dieu, c'est aussi ce qui pose le principe de sevrage et qui, du coup, rend l'humain autonome. En fait, c'est un travail de sécularisation ou de laïcité, comme vous voulez. Ça signifie que l'homme a sa part de liberté, donc de responsabilité dans le monde, dans son histoire. L'enfant sevré, c'est celui qui est capable de pouvoir commencer sa propre histoire. Il devient sujet. Ici, ce n'est pas le croyant qui est sujet, ce n'est pas le croyant qui est l'enfant sevré, c'est l'âme. C'est l'âme. J'ai l'âme calme et tranquille, comme un enfant sevré qui est auprès de sa mère. J'ai l'âme comme un enfant sevré. Peut-être que le bon commentaire de cela, le bon Midrash, c'est dans Matthieu chapitre 18, verset 3, c'est l'histoire de Jésus et les petits-enfants. Hein, être fait semblable aux petits-enfants pour entrer dans le royaume des cieux. C'est-à-dire avoir l'âme comme un enfant, c'est-à-dire continuer à être curieux, continuer à pouvoir apprendre, continuer à faire des découvertes. Ce qui caractérise l'enfant, c'est qu'il peut tout apprendre. Quelqu'un qui vient au monde peut aussi bien parler le mandarin que la langue d'oeil ou la langue d'oc. Pardon ? J'ai un peu du mal à évaluer la confiance d'un enfant, mais peut-être. Moi, c'est-à-dire que je dis ça parce que je trouve que c'est quand même un sale coup qu'on leur fait de les faire naître. C'est-à-dire qu'ils étaient tranquillous, et d'un seul coup, il y a de l'air pas à 37 degrés qui leur rentre dans les poumons. Je pense que c'est pas tout à fait innocent s'ils se mettent à pleurer. Je pense que la confiance, elle prend un coup à un moment donné. Après, elle se construit, oui. Mais de même que l'enfant innocent, j'ai un peu du mal à y croire. L'enfant confiant dès le départ, à vérifier. Mais en tous les cas, il est plus. Enfin, je dirais pas qu'il est méfiant pour autant non plus. Hein. Mais ça se construit quand même. Je veux bien que les petits soient tout ce qui est le plus merveilleux, mais ils ont quand même une expérience initiale qui peut les rendre un peu suspicieux. Disons qu'ils ont le droit de développer une philosophie du soupçon. Voilà. Mais, à vérifier, c'est pas facile à évaluer ce genre de choses, mais en tous les cas, il me semble que quand Jésus s'adresse à ses disciples en parlant des enfants comme des exemples, comme des modèles, c'est plutôt sur leur capacité à accueillir de nouvelles choses que sur l'innocence ou la gentillesse. Genre la gentillesse des enfants. Globalement, les enfants sont plutôt favorables à la peine de mort. Hein. Si, faites la sortie d'Exode, faites la sortie d'Égypte avec eux, et ils vous diront que c'est bien fait pour les Égyptiens s'ils meurent dans la mer des gens. Hein. Vous avez qu'à part. Bien. Le verset 3, dès maintenant et à jamais, dit le caractère infini. C'est ce qui se rajoute par rapport au psaume 130, hein, où on avait déjà « Mets ton espoir en l'Éternel ». Dès maintenant et à jamais, c'est donc « dès le temps », mais « atta », donc « et », dès l'instant en fait. Voilà. Saisis la première occasion venue. « Ad olam » pour la vie éternelle. C'est-à-dire, vous pouvez prendre ça dans l'angle de la durée, mais moi je pense que c'est plutôt en termes de qualité que les choses se jouent, c'est-à-dire le caractère inaltérable. Ce que vous vivez là ne vous sera pas retiré, pour reprendre la phraséologie de l'apôtre Paul. Voilà. Pas parce que les choses ne sont plus visibles qu'elles ne sont plus. Donc, c'est un psaume qui dit le caractère incessant, finalement, de la bienveillance divine, qui est une bienveillance maternelle, finalement. Et une femme, oublierait-elle l'enfant qu'elle allait ? À supposer qu'elle l'oublie, Dieu ne nous oublie pas. Il se pourrait même qu'il ait notre nom gravé dans la paume de ses mains, pour autant qu'il ait des mains. Dit Ésaïe. Alors, on peut le comprendre de deux manières différentes, cela. Soit on peut dire, finalement, une des caractéristiques de Dieu, c'est qu'il insiste. La question n'est peut-être pas de savoir si Dieu existe, mais s'il insiste. Et puis, l'autre chose est de savoir comment ça marche, Dieu. Et peut-être que ce psaume nous dit que Dieu n'est pas forcément celui qui est tout le temps en train de travailler comme nous pouvons passer nos journées et nos nuits à travailler pour gagner notre vie à la sueur de notre front. De l'aube à l'aube, une partie de la matinée. Bon. Peut-être que c'est un psaume qui nous dit que ce qui est incessant, c'est l'effet que Dieu produit sur nous. C'est-à-dire que finalement, on a un croyant qui est dans une attitude priante. Donc en fait, il se tient face à Dieu. Il attend Dieu, il est vers son âme et vers l'Éternel. Et donc, lorsque nous tenons dans ce rapport de tension face à l'ultime, eh bien, ça devient efficace. C'est l'idée selon laquelle la posture priante change. Notre situation, notre vie, notre regard, elle a un impact sur nous. Et ça, c'est sans limite et sans obstacle. Rien ne peut s'interposer dans cette situation-là. Donc on doit voir un cantique, hein, c'est le cantique de Luther, on peut nous mettre au fer, on peut nous torturer, etc. Ça ne va pas changer grand-chose à notre posture intérieure, qu'on nous jette au feu, etc. Voilà. Donc, on a un psaume 131 qui s'inscrit dans le droit fil du psaume 130 et qui parle de la disposition intérieure du croyant dans sa vie quotidienne. L'âme calme et tranquille, c'est en fait la sérénité. Donc pas la peine, vous pouvez toujours, mais pas la peine de courir en Extrême-Orient pour récupérer une sagesse pour devenir zen. Vous avez tout dans les textes bibliques. Un paroissien qui était professeur de théologie, Camille Isard, très féru justement de spiritualité, me disait qu'un jour il rencontre un maître zen, et donc ils discutent, et puis le maître zen lui dit « Mais moi je ne comprends pas vraiment ce goût des occidentaux pour la sagesse orientale, alors que vous avez tout avec Jean de la Croix. » Voilà. Bon. Les textes bibliques sont pas mal non plus. 132. Allez, c'est parti. Qui nous lit le psaume 132 ? Oui, allons-y.
Cantique des degrés. L'Éternel soutiendra de David de toutes ses peines. Il jura à l'Éternel. Il fit ce vœu au puissant de Jacob. Je n'entrerai pas dans la tente où j'habite. Je ne monterai pas sur le lit où je repose. Je ne donnerai ni sommeil à mes yeux, ni assoupissement à mes paupières. Jusqu'à ce que j'ai trouvé un lieu pour l'Éternel, une demeure pour le puissant de Jacob. Voici, nous en entendîmes parler à Ephrata, nous la trouvâmes dans les champs de Jard. Allons à sa demeure, prosternons-nous devant son marchepied. Lève-toi, Éternel, viens à ton lieu de repos, toi et l'arche de ta majesté. Que tes sacrificateurs soient revêtus de justice et que tes fidèles poussent des cris de joie. À cause de David, ton serviteur, ne repousse pas ton loin. L'Éternel a juré la vérité à David, il n'en reviendra pas. Je mettrai sur ton trône un fruit de tes entrailles. Si tes fils observent mon alliance et mes préceptes que je leur enseigne, leurs fils aussi pour toujours seront assis sur ton trône. Oui, l'Éternel a choisi Sion. Il l'a désiré pour sa demeure. C'est mon lieu de repos à toujours. j'y habiterai, car je l'ai désiré. Je bénirai sa nourriture, je rassasirai de pain ses indigents. Je revêtirai de salut ses sacrificateurs, et ses fidèles pousseront des cris de joie. Là, j'élèverai la puissance de David, je préparerai une lampe à mon oint. Je revêtirai de honte mes ennemis, et sur lui élèvera sa couronne.
Merci. Bien. Alors, comme j'entends 2 Samuel combien ?
C'est le premier, ça doit être le 2 ou 3. Je vais mettre 2 ou 3 dans les premiers.
Alors, ça ferait référence à quel épisode ? Parce que bon, les numéros de chapitre, on n'est pas obligé de les connaître par cœur non plus.
Mais c'est quand David a été reconnu comme roi d'Israël, il y a le passage justement, il y a un chapitre où l'Éternel dit ta postérité s'assiera sur ton trône si tu restes fidèle au principe de.
2 Samuel 7.
Voilà, au principe de l'Éternel.
La prophétie de Nathan. Et en fait, on va voir que
c'est
aussi 2 Samuel 6, essentiellement, dans une première partie. Donc, ce que l'on peut dire aussi pour aider la lecture, c'est que ce psaume est en 2 parties qui sont symétriques. La première partie, c'est 1 à 9. C'est le passé. Et après les versets 10 à 18, c'est l'avenir. Alors, la première partie, justement, est liée à 2 Samuel 6. Est-ce que vous souvenez ce qu'il y a en 2 Samuel 6 ? Bon, bah, du coup, je fais comme les catéchumènes. Bah, comment on fait pour savoir alors ? Ouais, on regarde dans la Bible. Alors, qu'est-ce qu'on trouve en 2 Samuel 6 ? La réponse est dans le texte, hein, vous savez le plus souvent. Sinon, vous regardez dans ce texte-là et vous vous dites, ah bah oui, ça parle de ça, en fait.
Bah, c'est l'arche.
L'arche. L'arche de Noé ? Je fais comme les quelques humaines. L'arche de Noé ? L'arche d'Alliance. Ok.
C'est marrant parce qu'en fait, on a le,
double
penchant des derniers chapitres de Samuel 2, où justement, c'est le choix du lieu de l'arche. Le dernier chapitre, c'est David qui achète le terrain pour l'arche.
Oui.
C'est à la fin du chapitre de Samuel 2.
Mais
on trouve cette référence d'ailleurs au texte. J'ai trouvé ton texte, c'est celui-là. C'est oui. La fin de Samuel, là.
Oui, mais il y a aussi le moment où on a perdu l'arche.
Oui, le premier chapitre de Samuel.
Et qu'on a ici. Tout d'abord, il y a le verset premier qui est quand même assez savoureux. Éternel, souviens-toi de David. Alors, de toutes ses peines, c'est de toutes ses fautes aussi. Hein. C'est de toutes ses iniquités. Hein. Voilà, c'est pas ses peines de cœur. C'est pas ses chagrins.
Bon.
Souviens-toi de David de toutes ses peines. Il y a cette idée selon laquelle... ce serait pas mal que Dieu intervienne à nouveau comme il le fit autrefois. Sous-entendu, on est dans une situation qui n'est quand même pas fabuleuse. Alors, comme David est roi, c'est certainement une situation politique qui est en cause. Et donc, premier indice, il se pourrait que ce psaume ne soit pas un psaume de David. D'ailleurs, il n'est pas indiqué David, autrement que dans le souvenir. Et donc, c'est une indication sur le fait que ces psaumes pourraient être des psaumes de pèlerinage, mais post-exiliques. C'est-à-dire, non pas à l'époque du premier temple, mais à l'époque du deuxième temple. Hein, quand le temple est reconstruit après l'exil à Babylone. Et on verra à la fin qu'il y a un autre élément linguistique qui peut confirmer cela. Mais en tous les cas... Le fait qu'il s'agisse de se souvenir de David, ça montre qu'il est passé de l'eau dans la piscine de Siloé. Alors ensuite, il y a une chose curieuse. Au verset 2, c'est finalement David qui a fait un vœu à l'Éternel. Il jura l'Éternel, il fit ce vœu au puissant de Jacob, et ça, en fait, ça n'existe pas. C'est-à-dire qu'on n'a aucune référence à un vœu de David. Et il est probable qu'en fait, ce vœu de David soit écrit ici pour faire pendant avec l'autre partie, c'est-à-dire le verset 11a, où on a l'Éternel a juré la vérité à David. Donc c'est un peu serment contre serment. C'est pour montrer qu'il y a un parallélisme entre l'attitude de David et l'attitude de Dieu. Autrement dit, pour confirmer que David est bien le Messie, bien loin. Oh, il est vraiment loin, David. Et c'est pour ça qu'il faut s'en souvenir. Donc, le vœu de David à l'Éternel est plutôt rédactionnel. Ensuite, on pourrait penser qu'effectivement, ces versets qui suivent, 3, 4, 5, sont relatifs à 2 Samuel 7, bâtir le temple, et en fait, non. En fait, ce qui est recherché, c'est l'Arche d'Alliance, effectivement. L'Arche d'Alliance qui va être perdue hein, au début du livre de Samuel. Et 2 Samuel 6, c'est le retour de l'Arche, qui va être célébré de façon très joyeuse. Avec empressement et des cris de joie ou des soupirs. Parce que le peuple s'est langui auprès de l'Arche. Voilà. Il y a, dans cette mention de l'Arche, à mon avis, un trait polémique que Raymond Jacques Tourné, un exégète qui a beaucoup travaillé sur les psaumes, rapporte à la couche deutéronomiste. C'est en fait la polémique contre la sédentarisation. C'est la polémique contre l'inscription dans un lieu déterminé de la foi d'Israël. Et donc, pour garder le caractère nomade, il va y avoir une revalorisation de l'Arche, qui par définition est un mobilier. Et comme c'est un mobilier, ça parle du Dieu qui bouge, de la foi nomade et du peuple qui ne va pas s'enterrer. Je vous rappelle que parmi les 613 mitzvot, c'est-à-dire les 613 prescriptions encore en vigueur dans le judaïsme et qui sont issues de la Torah, l'un de ces commandements, c'est de ne pas retirer les barres de l'Arche d'Alliance. C'est-à-dire que même posées définitivement dans le temple de Jérusalem, il faut laisser les barres pour qu'elles soient toujours prêtes au mouvement, toujours prêtes au départ. Et l'Arche d'Alliance, c'est à la fois le lieu qui contient les 10 paroles, et puis c'est aussi le trône de Dieu, donc le marchepied. Il y a des chérubins qui sont sur le couvercle, et qui, avec leurs ailes, forment comme un siège, finalement. C'est chic. Le tout couvert d'or. Alors évidemment, si ce psaume est effectivement post-exilique, il n'y a plus d'arche. D'ailleurs, il n'y a plus de temple. Et en fait, il n'y a plus grand-chose. Et donc, on a un psaume qui va compenser l'absence de tout ce qui était le socle de la foi du peuple hébreu. Donc, on a un psaume qui est en train de créer une liturgie qui va meubler la foi israélite, qui va faire passer le peuple de la confiance qu'il pouvait avoir dans un temple bien établi à la foi véritable, c'est-à-dire une foi dynamique. Une foi en marche, une foi qui met en marche. Pour bien vérifier que c'est de l'arche dont on parle, il suffit d'aller au verset 6. Nous en entendîmes parler à Ephrata, nous la trouvâmes dans les champs de Jahar. Donc ce n'est pas le temple qu'on trouve dans le champ de Jahar. C'est bien une chose et c'est l'arche, a priori. Donc, vous voyez, elle est sous-entendue, l'arche, là. Ephrata, c'est... Ça, c'est les questions de catéchumène aussi. Ça ne présente pas vraiment de grand intérêt, si ce n'est que ça permet de savoir de quoi on parle, là. Ephrata, c'est Bethléem. Donc, c'est chez David, le petit canaillou. Peut-être que c'est un mot qui viendrait du terme hébreu « peri » qui veut dire « le fruit ». Bethléem, c'est la maison du pain. Et c'est finalement un lieu qui nourrit, quoi. Qui nourrit la foi. C'est le fruit. Donc, allons à sa demeure, prosternons-nous devant son marchepied. Donc là, on reprend l'idée de l'arche comme trône de Dieu. Et on a cette idée de la procession. Donc, pour vous dire les choses telles qu'on peut les imaginer, ce psaume 132 pourrait être un psaume qui renvoie à une fête de l'Alliance. C'est quelque chose qui n'est plus célébré de nos jours, et pour cause, on n'a plus l'Arche d'Alliance. Mais l'Arche d'Alliance était vraiment l'objet central, bien plus important que l'autel sur lequel on pouvait sacrifier, hein, puisque c'était le trône de Dieu. Et donc, c'est l'exégète Krauss qui a travaillé sur le culte israélite, qui imagine qu'il pouvait y avoir une fête de l'Alliance qui consistait à avoir justement ce pèlerinage qui reprenait aussi bien la dépose dans le lieu que David avait choisi, que le pèlerinage pour lequel l'arche est la plus connue, c'est-à-dire l'entrée en terre promise. C'est autour de l'arche d'alliance que se fait l'entrée en terre promise au début du livre de Josué. C'est parce que des prêtres portent l'arche d'alliance que le Jourdain se coupe et que le peuple peut traverser à pied sec. Et pour... Enfin, c'est un récit d'alliance, cette entrée en terre promise. Aussitôt le peuple est entré, qu'il pratique une circoncision générale, qui est un rite d'alliance, et il y a une célébration de la Pâque, ce qui vient sceller l'alliance. Et donc, on aurait eu chaque année, à nouveau, une fête de l'alliance autour de l'arche. Bon. Donc, évidemment, pour nous, c'est extrêmement exotique. Donc à partir du verset 9-10, on passe à la deuxième partie qui est plus poussée vers l'avenir. Et la transition, donc vers 8-10, c'est l'invitation à aller vers Jérusalem. Lève-toi, Éternel, viens à ton lieu de repos, toi et l'arche de ta majesté, que tes sacrificateurs soient revêtus de justice et que tes fidèles poussent des cris de joie. Donc là, c'est le retour qui est marqué par la joie. Soit dit en passant, ça laisse entendre que nous ne devrions jamais prendre le visage de ceux qui ne se nourrissent que de gâteaux secs. Voilà. La foi n'est pas l'histoire d'une crispation. Voilà. Il ne faudrait pas prendre des allures tristes et affligées pour attirer sur soi les regards. C'est ce que Jésus dira plus tard au sujet du jeûne. Il me fait envie de pitié. Ça, c'est nos grands-mères qui disent ça. Bien. Donc, le verset 11, qui est la reprise du vœu. Alors, cette fois, le verset 11, on l'a effectivement dans 2 Samuel 7, verset 16. Je vous le lis, parce que là, Dieu s'engage vraiment. De Samuel 7, verset 16. Voilà. « Ta maison et ton règne seront pour toujours assurés devant toi, ton trône pour toujours affermi. » Voilà l'engagement qui avait été pris. Et le verset 12 est intéressant, là aussi en 2 Samuel 7, hein, vous le disiez. C'est d'envisager la désobéissance. Alors on le dit de façon positive. Si tes fils observent mon alliance, tout va bien se passer, et tu seras sur le trône à perpétuité. Leurs fils aussi, pour toujours, seront assis sur ton trône. Ça laisse entendre que s'ils n'obéissent pas, ça va mal se passer. Et de fait, non seulement il n'y a plus l'arche, non seulement il n'y a plus le temple, mais la lignée davidique s'est arrêtée. C'est-à-dire que lorsque Nabuchodonosor rentre à Jérusalem, eh bien, ça devient une province, simplement. Donc, il n'y a plus de roi de Jérusalem. Le roi, il est déporté, il a les yeux percés. Bon. C'est pas la gloire. Hein. Donc, on a ici un verset qui est très deutéronomisant et qui est un peu, sinon une justification, du moins une explication de l'exil. C'est-à-dire que quand on parle de la couche deutéronomiste, c'est bon, bien sûr le livre de Deutéronome, mais aussi tous ces rédacteurs qu'on trouve notamment dans le livre de Jérémie, qui au moment de l'exil et à la suite de l'exil vont se demander mais comment on en est arrivé là ? Comment on a pu être écrasé ? Comment on a pu être anéanti ? Et donc, il va y avoir une relecture de l'histoire pour voir quels ont été les éléments qui ont conduit à cela. Et parmi les éléments, il y a, dit de façon très religieuse, le fait que les uns et les autres, parmi les rois, auraient grosso modo tourné le dos à Dieu, se seraient écartés de ses préceptes. Donc, il va y avoir du coup une réinsistance sur le lien que chacun doit avoir avec la Torah, qui va être considéré comme un chemin, finalement, le chemin du salut. Les prêtres, eux, vont développer une autre explication. Donc, on a les versets 11-12 qui peuvent être compris aussi comme une sorte d'accomplissement de la promesse faite à Abraham en Genèse 12. Si vous reprenez le début d'Abraham, finalement, il y a l'idée du lieu et de la descendance. Et on a les mêmes motifs dans ces psaumes, le lieu et la descendance. On a les mêmes motifs en 2 Samuel 7, etc. Et si on se souvient qu'Abraham vient de Ur en Chaldée, en fait, on est quand même en droit de se dire que l'histoire d'Abraham est elle aussi là pour expliquer, enfin pour faire quelque chose de l'exil. C'est-à-dire que ça ne se passe pas en moins 1800, ça se passe au 6e siècle avant notre ère. Et qu'il s'agit de penser la suite de l'exil à Babylone, la sortie de Babylone et l'installation pour fonder quelque chose de radicalement neuf. Et quand on voit qu'Abraham emprunte beaucoup quand même à la culture babylonienne, et que c'est aussi la couche sacerdotale, pour le coup les prêtres, qui tissent l'un des deux récits d'Abraham, eh bien on peut voir le texte d'Abraham non pas comme un récit des origines, mais comme une interprétation de ce que le peuple est appelé à vivre après avoir été déporté. La question sera notamment de savoir quel est le peuple légitime entre ceux qui sont restés à Jérusalem et ceux qui ont été déportés. Quel est le véritable Israël ? Et en fait, on a des psaumes de pèlerinage qui ont tendance à dire que Israël est un peuple de pèlerins. Et dans une certaine mesure, les plus grands pèlerins qui soient sont ceux qui vont venir de Babylone. Ceux qui sont déjà dans le territoire de Juda ne sont pas à proprement parler des pèlerins. Est-ce qu'on n'aurait pas un grand pèlerinage du retour, voyez ? Est-ce qu'on n'aurait pas des psaumes qui sont en train de justifier le fait que ceux qui viennent de Babylone sont le véritable Israël ? Voilà. La question est de savoir ce qu'on fait de ces pieds noirs, quoi. Voilà. Et on sait que ça n'a rien d'évident. Et donc il faut composer, rédiger, écrire une histoire. Quand je disais histoire, je pensais une mythologie, ou un mythe plus exactement. Et vous savez que ce n'est pas péjoratif, un mythe, dans mon esprit, mais il s'agit de dire une vérité qui n'est pas visible par les premiers éléments historiques factuels que l'on a sous les yeux. C'est-à-dire que l'identité d'une personne, par exemple, dépasse largement ce qui peut être inscrit sur sa carte d'identité ou sur son passeport. L'identité d'une personne, donc, dépasse largement les faits administratifs. Et donc, le mythe, c'est ce qui essaie de dire l'identité de la personne par-delà les faits administratifs. Et donc face à un peuple de Juda qui se sentait peut-être en droit de revendiquer l'exclusivité de l'identité israélite parce qu'il était resté sur place, eh bien les pieds noirs de l'époque peuvent peut-être aussi se dire « il y a là des arguments pour faire valoir que nous aussi nous en sommes ». Certains iront jusqu'à penser que, ou à dire que non seulement les déportés sont le véritable Israël, mais c'est le seul Israël. Et du coup, l'entrée en terre promise peut être aussi comprise comme le droit que les exilés font valoir face à ceux qui étaient restés sur place. Donc ça, le récit d'entrée en terre promise peut être un récit interne au peuple hébreu. Alors, le verset 14, on a à nouveau le lieu du repos. Hein, donc on avait déjà l'histoire du repos au verset 3, on l'avait au verset 8, et puis on l'a à nouveau avec le verset 14. D'ailleurs, ce texte est structuré avec David. Hein. On a David au début, on a David au verset 10-11, et puis on l'a à nouveau à la fin. Verset 17. Donc là, le lieu du repos, vous voyez, on a un autre texte de pèlerinage, c'est le psaume 23, qui est quand même assez proche au niveau des thématiques. Et le psaume 23, on l'a avec aussi avec le fait qu'on habite le lieu. Hein, ça, le psaume 23 finit par la question de l'habitation. Bon, il y a une ambiguïté, est-ce que c'est retourner la maison de l'Éternel ou est-ce que c'est habiter la maison de l'Éternel ? Il y a une question grammaticale insoluble. Bon, mais voilà, il y a suffisamment de contacts thématiques pour se dire que le psaume 23, avec ce psaume 132, ont des choses à nous dire. Le verset 15 est le verset qui contient l'élément linguistique pour faire dire que c'est un psaume post-exilique. C'est le terme qui est ici traduit par nourriture, on pourrait dire ressource, tseida. C'est un mot qui est employé après l'exil. Les références, c'est le psaume 78, verset 5, Josué, chapitre 9, verset 5-14, Job, chapitre 38, verset 41, Néhémie, chapitre 13, verset 15. Bon, aucun intérêt pour vous de les noter, simplement, il faut bien justifier un peu. Et puis, c'est pour vous montrer comment ça marche, la critique littéraire. C'est qu'effectivement, on essaie de retrouver un peu les différentes strates d'écriture en fonction de la langue. C'est-à-dire que l'hébreu, pour vous, c'est du chinois, mais... vous seriez tout à fait capable, en lisant Rabelais, de savoir que ce n'est pas un auteur du XXIe siècle. Hein ? Quand vous avez entendu Jean Calvin, vous avez compris qu'il n'était pas du XXIe. Vous seriez capable de dire, bon, c'est avant le XIXe en tout cas. Bon, bah, voilà. En fonction du vocabulaire, on peut retrouver les strates rédactionnelles quand on est un peu familiarisé. Donc je vous ai donné quelques éléments, et vous voyez bien que Néhémie, bon effectivement c'est forcément post-exilique, on a le droit aussi d'utiliser des vocabulaires d'autrefois. Hein. Voilà, donc il faut qu'il y ait une convergence d'éléments pour pouvoir dire ce texte est de telle époque. Mais je vous ai dit dès le départ que c'était de l'hébreu plutôt facile à lire, donc c'est de l'hébreu plutôt proche de nous. Quoi. Bon, c'est de l'hébreu facile à lire relativement. Hein. Le verset 17 fait apparaître le Messie à nouveau, loin, donc le Messie, le Machiar. Et ce qui est intéressant, c'est ce qui n'apparaît pas bien dans la traduction, c'est le verbe qui est traduit par « j'élèverai », parce qu'en fait, c'est « faire germer »,« tsmar », et c'est ce qui donne le germe. Et en fait, c'est un terme messianique qu'on trouve dans Zacharie, Jérémie, Ésaïe, notamment Ésaïe, chapitre 11, verset 1. Ça, c'est les textes qu'on connaît parce que ça parle de celui qu'on imagine être Jésus. Zacharie 3:8 aussi. Le Messie, celui qui doit venir, c'est le germe. Donc c'est le rejeton aussi, hein, qui sort du vieux tronc d'Isaïe, etc. Et donc, vous voyez, cette histoire de germe, eh bien, c'est peut-être la réponse à l'angoisse dont je vous ai parlé, c'est-à-dire l'angoisse de « il n'y a plus rien ». Il n'y a plus de temple, il n'y a plus d'arche, il n'y a plus de dîner davidique. Ben, ça peut repousser. C'est un peu comme ces petites fleurs qui sont en train de pousser là, sur le temple, sur l'arc boutant. Vous voyez, ça pousse alors qu'en principe, ça ne devrait plus pousser. Vous les voyez là, ils sont là. À moins que notre sacristain les ait coupés. Mais il y a quatre petites plantes qui poussent dans la pierre. Voilà, ça peut germer même là où ce n'est pas censé germer. Ça, c'est la grâce. Et donc, voilà de quoi nourrir une espérance. Et peut-être que la fête de l'Alliance a cette fonction-là, de pouvoir ressusciter l'espérance, même quand ça ne va pas fort. Bon, on finit avec 133, 134, vite fait, bien fait. Ah oui, ici, encore un terme très deutéronomiste, c'est le fait qu'il a choisi Sion, c'est Barar, Barar. En principe, on choisit les personnes, on élit, c'est le verset 13. Le terme Barar, choisir, en principe, c'est David qui aurait dû être choisi, et là, c'est Sion. Et donc, c'est pour montrer qu'il y a une sorte de contraction entre tout. C'est-à-dire qu'à défaut d'avoir une arche, à défaut peut-être même d'avoir Sion, à défaut d'avoir David, eh ben on va avoir un germe qui reprend tout cela. Il y a une récapitulation.
Et juste un dernier rapidement. Oui. Il y a aussi, si on voit ce côté du choix de Sion, quand on regarde à la fin, justement, quand suite à David qui fait son recensement, Dieu envoie un ange pour tout détruire, mais Dieu arrête parce qu'il est amoureux de Sion et Jérusalem aussi.
Oui.
C'est la vision de Jérusalem, de Sion, qui le fait arrêter parce qu'il dit « c'est ma terre, c'est celui que j'aime, dont je ne détruirai pas ».
Oui. Alors, je vous passe en revue vite fait 133, 134. On a là l'argument pour continuer à faire des cultes. Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Eh bien, c'est l'idée selon laquelle le pèlerinage converge vers un lieu qui nous fait découvrir des frères et des sœurs. Et donc, c'est le thème de la reconnaissance, en fait, ce verset. Hein, c'est des frères qui se reconnaissent, en fait, en arrivant dans ce même espace cultuel. Quand vous arrivez à l'Assemblée du désert, « Oh, des protestants !»« Ah bah ça alors ?»« Ah bah vous aussi !» Oh, mais qu'est-ce que tu fais là? Bon, voilà. Ah, mais en fait, toi et moi, on est du même sang. Voilà. On peut imaginer que c'est la fête des tentes, parce que demeurer ensemble, c'est ce qui se passait pendant Soukhot. On vivait ensemble sous des abris qui rappelaient le côté précaire de la sortie d'Égypte. Et c'est maintenant que les choses vont commencer à se corser pour vous. C'est comme l'huile... Alors, des frères, c'est quoi? Des frères et des sœurs, c'est quoi? C'est quoi une assemblée cultuelle? Eh bien, c'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur les bords de ses vêtements. C'est l'huile d'onction des prêtres, qui se répand totalement, partout. Et donc, les frères, c'est comme de l'huile d'onction des prêtres. Donc, tout le monde est prêtre. Donc, ça instaure le sacerdoce universel qui rend, en quelque sorte, inutile la présence des pasteurs. Très bien. Donc, pas la peine d'aller chercher dans la première lettre de Pierre une justification du sacerdoce universel. On l'a déjà dans Exode 19, avec une nation de prêtres. Et puis, on l'a ici avec le fait que la fraternité fait de nous des prêtres. Et du coup, ça signifie bien qu'on a non seulement notre rôle à jouer dans les questions de spiritualité, mais c'est qu'en fait, on est vraiment Messie pour les autres. Voilà. On est Christ pour autrui. Et mieux que cela, nous sommes comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. L'Hermon est assez humide et assez vert. Et donc, on peut dire que la fraternité, c'est ce qui rend une communauté féconde. La fraternité, c'est ce qui permet la croissance. Et on pourrait dire que la fraternité est la vraie force du culte. Donc les pèlerins sont comme une rosée qui rend Sion féconde, et on pourrait dire la vraie richesse d'une église, ce n'est pas le temple ou les prêtres ou les pasteurs, c'est les pèlerins. Voilà. Psaume 134. Je ne ferai pas la sortie. Psaume 134. C'est très étonnant comme rhétorique. Voici. Bénissez l'Éternel, vous tous, serviteurs de l'Éternel, qui vous tenez dans la maison de l'Éternel pendant les nuits. Élevez vos mains vers le sanctuaire et bénissez l'Éternel. Que l'Éternel te bénisse de Sion, lui qui fait les cieux et la terre. Lui qui est faisant, en fait. C'est un participe présent. Eh bien là, c'est votre job, en fait. C'est-à-dire que c'est vous qui parlez. C'est vous qui attrapez les prêtres par le col en disant « Maintenant, vous faites votre job, à savoir bénir. » Puisque la fonction du prêtre, c'est de bénir. C'est ce qu'on a dans Nombre 6, verset 23. La bénédiction est l'office des prêtres par excellence. Et donc, les paroissiens sont là pour rappeler les officiants à leurs responsabilités. Voilà. Donc on n'est pas avec des paroissiens passifs qui sont simplement en train de recevoir. En fait, ce sont des veilleurs, voilà, des vrais amandiers qui disent le temps est venu de faire quelque chose là maintenant. Et donc, juste sur le plan grammatical, c'est pas lui qui a fait les cieux et la terre, c'est lui qui est plutôt faisant. Voilà. En train de, oui. C'est Calvin qui traduit par créateur, en fait. Il est, voilà. Bon. C'est une façon de dire que la création n'est pas un petit coup de pouce au départ, que c'est plutôt quelque chose de continu.
Mais pourquoi bénissez l'Éternel généralement? C'est l'Éternel qui bénit,
c'est le pasteur qui bénit les oies. Pourquoi ça a dans le sens? Eh bien, c'est parce qu'en fait, on est dans une logique très romaine où ça va du haut vers le bas. Mais du psaume 130 jusqu'à 134, en fait, on a vu que le mouvement était dans l'autre sens. C'est des profondeurs. Je pourrais, par exemple, paraphraser Wilfred Monod qui disait qu'un jour la lumière, enfin non, pas un jour, il disait la lumière vient d'en bas. C'est une façon de dire que on peut bien sûr avoir l'idée d'une religion qui s'impose du haut vers le bas, très hiérarchisée, très descendante, etc. Mais qui n'est pas du tout une spiritualité biblique, en tout cas. Et que les mentions de Dieu dans les cieux, c'est une métaphore qui n'a pas le sens qu'on lui conférerait aujourd'hui au sens de pyramidal. Et donc, bénir l'Éternel, c'est en fait quelque chose qui est très fréquent dans le Premier Testament. On peut se rappeler que bénir, barak, c'est aussi d'un verbe qui veut dire fléchir le genou. Donc c'est la posture de l'humilité. Et donc c'est aussi de relever le visage de l'autre. Et quand Dieu nous bénit, c'est qu'en fait il relève notre visage. On a ça de temps en temps dans les textes bibliques. Et donc avoir nous-mêmes cette posture d'humilité est tout à fait conforme à la dynamique de ces psaumes, notamment. Alors, peut-être juste pour finir, c'est de se dire que ces psaumes de pèlerinage ne sont pas forcément à comprendre comme des psaumes à utiliser uniquement quand on est en pèlerinage au sens physique du terme. Et que, bien sûr, ça peut être un pèlerinage intérieur et que finalement, ces pèlerinages sont peut-être des métaphores de ce qu'est la prière. Et que la prière, c'est d'abord un cheminement. Que la prière, ce n'est pas une posture figée, à genoux, les mains jointes, les yeux fermés, etc. La prière, c'est peut-être justement ce mouvement, cette dynamique qui s'approche avec précaution, en fait, de façon à ne pas perdre ce qui est à entendre. Vous voyez, on peut arriver de façon tonitruante dans un lieu, et du coup, on ne profite pas du lieu, on impose sa présence. Eh bien, en fait, ce sont des psaumes qui nous apprennent à être attentifs à ce qui est disponible autour de nous. Et du coup, ce sont des psaumes qui ne disent pas une journée ou une semaine dans notre vie, mais ils disent, en quelque sorte, notre vie. On pourrait dire que celui qui s'approche sans précaution du lieu sacré pourrait se faire entendre comme Moïse et comme Josué. N'approche pas, mais commence par retirer tes sandales, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et donc, c'est l'idée selon laquelle on se prépare intérieurement parce qu'il y a une rencontre possible. Hein, que ce soit au buisson ardent ou que ce soit du côté de Jéricho, il y a ce travail personnel à entreprendre. Donc contre l'idée que la mystique, ce serait on se fait attraper comme ça, un truc surnaturel, non. La mystique, c'est au contraire un cheminement, ça ne se fait pas sans effort, il y a une sorte de discipline intérieure, et ça ne se fait pas sans être guidé. Tous ces psaumes sont là pour nous initier à la mystique. Et voilà, maintenant à vous de jouer. Voilà.